100% sport. Plus de NFL. Plus de LCF.
Are you ready for some football?
Welcome to the NFL.
Le plus gros tailgate football est ici. Touchdown! Avec Nicolas Richard.
Nicolas Richard en direct du Monaco de la Rive-Nord. Saint-Jérôme, comment ça va?
Ça va très bien toi-même.
Ça va très bien, merci beaucoup. Un dimanche de foot complet, total. Une éclipse footballistique aujourd'hui.
Oui, avec un peu de tennis ce matin également à se mettre sous la dent.
Ah oui, hein, t'es là-dessus toi.
Oui, Gabriel Diallo qui a perdu à sa première finale ATP, mais quand même bel effort du Montréalais.
Oui, la progression, c'est important. Pas juste, voilà. Pas juste au hockey, hein. On veut voir ça dans tous les sports.
Dans tous les domaines.
Absolument. Écoute, progression, c'est pas totalement ce qu'on voit des Alouettes présentement. Depuis la victoire de la Coupe Grey, mais cet été également.
Quelle belle liaison, Greg, t'as raison.
Hein? Je suis payé pour faire ça en plus.
T'es un professionnel. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Non, t'en as parlé, les Alouettes. C'est pas. Bon, défaite de 27-3 là, pour ceux qui auraient raté cette rencontre-là, vous n'avez rien raté. Là. Je pense qu'il y a bien peu de gens, fans des Alouettes, qui se souviendront de cette rencontre-là dans une décennie. Duel, bon, à sens unique en faveur des Lions, ça, il n'y a pas de doute. Simplement à comprendre et avoir le pointage. Mais je suis pas inquiet, Greg, de la situation, mais c'est quand même préoccupant. Dans la mesure où, on s'en parlait hier, les Alouettes n'ont rien à perdre ni rien à gagner d'ici la fin de la saison. Depuis le 28 septembre, les Alouettes sont officiellement en tête de l'association Est, vont recevoir la finale de l'Est. Ça, c'est coché balancé. Personne ne peut changer ça. Or, depuis 3 semaines, les joueurs de Jason Mast nous disent à mots couverts, là, que les matchs de fin de saison sont des matchs de préparation en vue des éliminatoires. Et force est d'admettre que si ça, c'est une préparation, ça augure pas très bien pour la troupe montréalaise pour ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines. C'est compliqué en attaque, c'est même pénible. Je faisais le calcul hier. Si on compare les 5 premiers matchs versus les 5 derniers matchs, c'est une moyenne de points marqués qui a diminué de 10 points. 10 points, c'est beaucoup au football. La défense, c'est encore le coup, même si hier, ça a été fragile. Vernon Adams a complètement menotté la défensive montréalaise qui se posait être une référence. Bref, à peu près tout a mal été hier chez les Alouettes. Puis j'ai hâte de voir comment ils vont rebondir la semaine prochaine pour le dernier match de la saison contre les dangereux Blue Bombers de Winnipeg.
Mais n'est-ce pas une bonne nouvelle, Nick? Tu sais, ça fait 2 ans que cette équipe-là, puis t'es sur le beat des Alouettes, pas moi. Et les Alouettes nous ont surpris l'an dernier en remportant la Coupe Grey et cette fameuse mentalité avec Jason Mast, Cody Fajardo. Tu sais, on veut un exemple de pack mentality. Là. On l'a eu, cette mentalité de meute là, qu'on a eu hier. Je viens de trouver la traduction. Ça fait des semaines, je la cherche, je viens de la trouver. Cette mentalité de meute qu'on a avec les Alouettes. Et à un moment donné, c'est normal lorsque tu connais une saison comme celle-là, ton corps arrière substitut arrive, remporte des matchs quand même. Oui, tu as eu quelques défaites, mais tu mènes allègrement devant toutes les autres équipes de la Ligue canadienne ou presque. Ça se peut à un moment donné qu'il arrive quelques petites blessures et qu'il y ait un relâchement dans cet état d'esprit d'équipe. Est-ce que ma lecture est pas trop loin de la vérité?
Ben oui, parce que dans l'absolu, les Alouettes ont seulement 4 défaites à leur dossier cette saison, ce qui est un rendement extraordinaire. Néanmoins, je suis convaincu que les hommes de Jason Mast voudraient arriver en éliminatoire avec le vent dans les voiles et une certaine confiance, ce qui n'est pas le cas présentement. Hier, match horrible contre Vancouver. La semaine dernière, ça a tout pris pour que les Alouettes réussissent à battre le Rouge et Noir. La semaine précédente, défaite, on a accordé 37 points aux Argos. Je trouve qu'il y a beaucoup de si, il y a beaucoup de mais, il y a beaucoup de conditions pour qu'on réussisse à se convaincre que les Alouettes sont encore l'équipe à battre. Leur historique, leur passé et la qualité de cette équipe et de cette formation-là ne fait aucun doute. Cependant, dans les faits, dans la manière de jouer, c'est beaucoup plus compliqué. Tu sais, encore hier, Cody Fajardo, qui n'a pas été avec l'équipe pendant 10 jours environ, qui était au Nevada pour la naissance de son 2e enfant, a commencé le match. Je comprends qu'on veut lui donner du terrain, on veut lui donner de l'expérience de jeu et du temps de qualité, mais ça n'a pas été concluant hier. 7 passes pour 67 verges, il avait l'air perdu.
Ben, ça fait longtemps que c'est pas ça fait longtemps que c'est pas convaincant. T'sais, quand je dis longtemps, ça fait...
Je suis d'accord avec toi.
Ben, tu sais, exactement. Puis j'ai le plus grand respect pour Cody Fajardo. Tout le monde l'aime à Montréal. Tu sais, il a prouvé ça. Mais être corps arrière d'une équipe... Puis je comprends, là, en fait, il a eu son deuxième enfant. C'est magnifique. On le félicite, d'ailleurs. Là, t'sais. Mais tu sais que Davis Alexander est capable de faire la job. Donne-lui le départ. Il est là avec l'équipe, il répète avec tout le monde. Ça te prend, surtout dans des temps où on n'est pas si convaincu que ça. Oui, convaincant, à mon avis, tu sais, laisse le corps arrière qui était là, qui a eu les répétitions avec tout le monde. C'est une histoire, tu le sais, de synchronisme. Al Pacino le disait dans Any Given Sunday, dans Les Héros du Dimanche, c'est un game of inches. Et la précision est importante. On aurait dû donner le départ, à mon avis, à Davis Alexander hier.
Mais en même temps, Greg, tu veux pas que ton quart arrière partant, le joueur par excellence de la dernière Coupe Grey, arrive le 9 novembre sans avoir joué de football depuis un mois et demi à peu près. Tu veux pas qu'il arrive froid, qu'il arrive tiède, tu veux qu'il soit confiant, tu veux qu'il ait eu des répétitions auparavant. Puis je comprends l'idée, puis je comprends ceux qui disent qu'Alexander aurait dû avoir le départ parce qu'il est dans la roue déjà, tu l'as dit, il est avec l'équipe à chaque semaine. Ça aurait été logique. C'est pas à moi de dire si c'est la bonne ou la mauvaise décision, mais ça aurait été logique. Là, on l'a donné à Fajardo pour qu'il voit du terrain, qu'il voit de l'action. Ça n'a pas été concluant. Les questions que je me pose, Greg, c'est un, est-ce qu'il va jouer contre Winnipeg ou tu veux l'économiser? Et deux, s'il joue, comment il va s'en sortir? Parce que oui, là, j'ai vu hier sur les réseaux sociaux notamment des gens qui disaient « Oui, Austin Mack n'était pas là ». C'est vrai, mais Austin Mack cette année n'est pas un facteur.
Ouais, il a joué deux matchs cette année, Austin Mack.
Exact. Il a joué seulement deux matchs. Là. Je pense qu'il faut un peu laisser de côté ce qu'il a fait l'an dernier, qui était fabuleux, mais quand même, cette année, il n'a pas son mot à dire dans la décision. Ensuite, oui, Walter Fletcher ne jouait pas le demi-offensif, mais les Alouettes ne sont pas reconnus pour leur qualité au jeu au sol. Donc ça non plus, c'est pas un facteur. N'oublions jamais que Tyson Philpott est blessé pour le reste de la saison.
Ça fait mal.
Oui, hier, on a essayé de donner beaucoup de ballons à Keon Julian Grant. Ça n'a pas été concluant. Sneed et Speaker font ce qu'ils peuvent, mais dans les faits, l'attaque est tiède, Greg. C'est pour ça que, tu sais, l'an passé, la défense a tout fait. Là. Si les Alouettes ont gagné la Coupe Grey, c'est en grande partie grâce au brio de la défense.
Ouais.
Est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que les Alouettes vont entamer les séries, en fait, les éliminatoires, en se basant simplement sur la qualité du jeu défensif? Parce que si c'est le cas, on a vu qu'hier, cette défense était faillible. Elle pouvait avoir de mauvaises journées. On l'a vu hier contre les Lions. Est-ce que ça peut arriver une autre fois contre les Argos ou le Rouge et Noir lors de la finale de l'Est? Rien n'est impossible parce qu'ils ont prouvé hier que c'était pas une défensive qui était parfaite.
On pèse pas sur le bouton panique encore, mais on verra ce que ça donne la semaine prochaine avant d'en recevoir la finale de l'Est à la maison. Et quand on arrive en éliminatoire, ben tout peut changer à ce moment-là.
Un match. Ouais.
Un match. T'as écrit un très beau papier. Je sais pas, est-ce qu'on peut encore dire papier, même s'il n'y a pas de papier?
Ben oui. Ouais. Je pense que moi, je suis pour. Moi, je suis pour.
Ouais, OK, bon. Si toi, t'es pour avec 12 ans de plus jeune que moi, c'est on va dire que c'est correct comme terme. Sur les matchs de la NFL, d'ailleurs, toi et Richard, vous pouvez aller lire ce que Nicolas Richard a écrit et Richard Labbé également. Packers-Texans est un match que tu vas surveiller avec raison. Ça, c'est un match type bol de popcorn, puis un gros.
On s'en est brièvement parlé hier. Jordan Love contre CJ Stroud. Deux quarts arrière explosifs qui, selon moi, seront parmi les meilleurs quarts de leur génération lorsqu'on va reparler de l'époque actuelle dans 10 ou 15 ans. Deux attaques explosives, deux bonnes défensives. Là, tu sais, je sais qu'il y a bien des gens qui sont surpris par la qualité du jeu défensif des Packers, mais l'acquisition de Xavier McKinney au cours de l'entre-saison a été salvatrice pour cette défense des Packers. À la maison, Josh Jacobs avec Jordan Love, c'est une paire qui fonctionne au jeu et dans les airs. Les Texans ont quelques blessés en défensive. Avantage Packers.
Avantage Packers?
Ouais, à domicile, t'as pas le choix. De la manière dont les Packers jouent présentement, match serré, entends-moi bien, mais avantage Packers.
Absolument. C'est un match qui peut aller d'un bord comme de l'autre. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Jordan Love la semaine passée. Plus ça va, lui, plus et on l'a échappé belle avec les Packers Ouh, que ça a passé proche avec son genou. Là. Je pense que tout le monde avait déjà la blessure d'Aaron Rodgers et celle de Kirk Cousins. Là, quand on a vu le même style de... Je vais utiliser le pop là, qu'on a vu dans son genou. Là. Finalement, on l'a échappé belle. Lyon-Vikings, et ça, manquez pas ça.
Ouais, duel dans la division Nord de la Nationale. Deux équipes qui ont très, très bien fait depuis le début de la saison. Les surprenants Vikings, là, je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui s'attendait à ce que les Vikings soient toujours parfaits au bout de 5 semaines. Cette équipe-là est surprenante, mais tellement belle à voir jouer. Je sais que Aiden Hutchinson est blessé, ratera le reste de la saison, mais quand même, pour la qualité du jeu défensif des Lions, notamment contre le jeu au sol, je donne léger avantage aux visiteurs à Détroit, parce que sur le plan de l'offensive, les deux équipes s'équilibrent. Après ça, les Vikings en défensive, machine à revirement. Mais je pense quand même que l'avantage, si on peut trouver dans les tranchées ce qui va faire la différence, c'est l'avantage défensif des Lions. Et pour ça, je pense que Détroit va mettre fin à la séquence parfaite des Vikings.
Ouais, puis surtout avec une équipe, je pense que c'est un des vestiaires les plus unis dans la NFL, celui des Lions de Détroit. On va la gagner pour Aiden Hutchinson, celle-là, et envoyer un message clair. Surtout que lui a dit « Je pourrais revenir si vous vous rendez en finale d'association ou du Super Bowl. Laissez-moi en douter, mais quand même, on va donner toutes les chances à Aiden Hutchinson de revenir dans ce vestiaire-là. » Et finalement, Titans-Bills.
C'est simplement que je suis curieux de voir comment vont se jumeler et vont se connecter Josh Allen et Amari Cooper. Les Titans, là, bon... C'est une bonne défensive, très bonne défensive, là, parmi les meilleures dans certains aspects du jeu, mais une attaque qui est complètement assèche. Jeu aérien parmi les pires de la NFL. Je pense que la défensive des Bills va ne faire qu'une bouchée de cette attaque du Tennessee. Mais quand même, là, duel intéressant. Hâte de voir justement comment les Bills vont réagir, comment vont s'acclimater. Et j'ai hâte de voir si vraiment la solution pour les Bills, c'était vraiment ce fameux receveur numéro un que l'on recherche depuis le début de la saison. Le jeu au sol va bien, Josh Allen va bien, mais on en a parlé ensemble, il manquait quand même une petite étincelle sur le plan offensif, notamment vis-à-vis du jeu aérien chez les Bills. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le terrain.
Nick, j'ai déjà hâte qu'on reprenne l'antenne ensemble à 14h54. On va discuter de tous les matchs tardifs de la NFL du dimanche, 16h25, mais également le Sunday night. Et si on a le temps, tiens un petit mot sur les deux matchs du lundi qui impliquent notamment mon équipe, tout de mauve vêtu. Vois-tu, j'ai mis du mauve quand même aujourd'hui pour rendre un certain hommage à mes Ravens.
Je te vois pas, mais je l'imagine.
Ah, c'est ça. Tu regarderas ça sur YouTube plus tard. Salut mon chum, à tantôt. On est au tiers de la saison de la NFL. Est-ce que vos prédictions du Super Bowl ont changé? La mienne, Ravens-Lyon. Est-ce que ça a changé après 7 semaines? J'ai hâte de voir si celle du détective Pimento a changé. Avais-tu mis tes Bengals? Là, il veut pas répondre. Là.
Oui. Ah. Et j'ai pas... totalement perdu espoir. Oh. Mais c'est quand même pas ma prédiction pour le Super Bowl. Là. Mais j'ai encore espoir pour les séries au moins.
Voilà la jeunesse qui vit d'amour et d'eau fraîche et d'espoir. On en parle dans 2 minutes et après ça, c'est la deuxième demi de notre championnat du monde. Préparez vos appels et vos prédictions du Super Bowl. On a hâte de vous jaser dans le Tailgate Weekend.